Frères et sœurs, vous êtes nombreux ce matin. Vous êtes venus nombreux. Car c'est le matin de Pâques, le matin de la résurrection. Mais l'Évangile nous dit que chez Marie-Madeleine, qui était cette femme qui avait été libérée par Jésus de tout le mal qu'elle avait dans son cœur, il fait sombre encore. Comme ce matin, lorsque nous avons marché avant le lever du soleil, comme nous sommes partis, il faisait sombre et en plus, il pleuvait. Oui, c'est la réalité du drame qui plonge Marie-Madeleine dans les ténèbres. Car on nous dit dans l'Évangile de Jean que Marie-Madeleine est quelques femmes étaient là, au pied de la croix, qu'elles ont vu Jésus mourir. Elles ont vu sa mise au tombeau. Elles ont constaté la mort de leur maître et de leur ami. Cela, c'est la réalité, la terrible réalité. Et nous savons tous que pour nous, la mort de ceux qu'on aime, c'est toujours une terrible réalité. C'est toujours difficile. Mais voici que Marie-Madeleine, poussée par son amour pour le Seigneur, pour son maître, va aller de bon matin au tombeau pour lui redire son amour, son affection, pour lui redire qu'elle a vécu des tas de bonnes choses avec lui. Mais voici que la pierre est enlevée, et elle est toute bouleversée, elle est toute troublée, et elle va courir vers les disciples. On a enlevé le corps du Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Encore une réalité terrible. Non seulement on a mis son ami dans le tombeau, mais voilà que, à ce matin du troisième jour, son corps a disparu. Et tout le monde est sans dessus, dessous. Nous voyons les disciples qui sont bouleversés aussi et qui courent au tombeau, qui courent au tombeau, notamment Pierre et l'autre disciple, le disciple bien-aimé, peut-être Saint Jean. Et on nous dit que ils courent les deux ensemble, mais que le disciple bien-aimé est plus jeune. Et il arrive le premier, et il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit rien. Il voit que le tombeau est vide. Et par déférence pour Pierre, il va laisser Pierre entrer le premier dans le tombeau. Lui aussi, il voit le tombeau vide. Et il ne comprend rien. Et puis le disciple bien-aimé va entrer à nouveau. Et on nous dit, il vit et il crut. Il vit et il crut. Le voir qui n'a pas de sens. Un tombeau vide, ça n'a pas de sens. Mais on nous dit, il vit et il crut. Il crut que celui qui était mort, celui qui les avait aimés jusqu'à donner sa vie par amour pour eux, eh bien, il est vivant. Chose extraordinaire. Mais ils comprennent que l'Écriture, la promesse de Dieu, allait dans ce sens-là. Jésus avait essayé de leur faire comprendre peu à peu que sa mission passait par la mort terrible de la croix, mais que cette mission, il allait la vivre jusqu'au bout, dans l'amour du Père et dans l'amour des hommes. Il vit et il crut. C'est peut-être important pour nous de nous dire que notre cœur nous porte à aller vers cette bonne nouvelle de la résurrection. Nous savons bien que notre plus cher désir, c'est que ceux que nous aimons, ils vivent pour toujours. C'est le philosophe Gabriel Marcel qui disait « Aimer quelqu'un, vraiment, c'est lui dire « Tu ne mourras pas ». Donc notre désir secret, et c'était déjà tout doucement la révélation dans l'Ancien Testament, que les justes, ceux qui avaient aimé Dieu jusqu'au bout, Dieu ne pouvait pas les laisser dans la mort, il ne pouvait pas les abandonner dans la mort. Et voilà qu'en Jésus, le juste par excellence, eh bien cette promesse se réalise. Et la nuit, tout à coup, les ténèbres s'éclairent. La mémoire des paroles de Jésus prend sens. La mémoire des paroles de l'Écriture prend sens, elle aussi. Ces paroles que nous relisons au fil des années liturgiques, elles ouvrent un sens, elles ouvrent une espérance. C'est pour cela qu'il est bon que nous les écoutions, que nous les réécoutions, que nous essayions de les comprendre. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous voyons bien qu'il faudra du temps pour que cette nouvelle devienne pour eux une bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle trop grande pour eux. Il faudra du temps, et il faudra tous ces récits dans le Nouveau Testament, récits du tombeau vide, récits de Jésus qui se donne à voir à Marie-Madeleine, qui se donne à voir aux disciples, récits aussi d'annonce de la foi, comme dans les Actes des Apôtres. Il va falloir croiser tous ces récits pour que la nouvelle de la résurrection devienne une bonne nouvelle. Car la nouvelle de la résurrection, ce n'est pas seulement un scoop. Vous savez, actuellement, on a des scoops 3 fois par jour. Les journalistes cherchent à faire des scoops et après, ça retombe. Eh bien, c'est une bonne nouvelle qui est appelée à entrer en nous, à nous toucher, à nous faire vivre. Et il faudra que le Christ ressuscité se donne peu à peu à voir, à toucher. Il va manger avec ses disciples pour qu'ils comprennent que celui qu'ils ont suivi, celui qu'ils ont écouté, eh bien oui, il est bien mort, mais il est ressuscité, il est vivant dans le cœur de Dieu et dans le cœur de ses amis. Il est vraiment vivant. Et il faudra l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, 50 jours plus tard, pour que les apôtres qui étaient enfermés dans leur maison par peur des Juifs puissent sortir et dire au peuple rassemblé, « Oui, il est vraiment ressuscité, celui que vous avez mis à mort, celui que vos chefs ont jugé et condamné, celui qui est mort sur la croix, il est ressuscité. Dieu, son Père, n'a pas pu le laisser dans la mort. » Voilà cette grande nouvelle qui peu à peu va prendre corps, prendre cœur dans la vie des disciples et pouvoir se partager comme une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ce n'est pas une espèce de miracle en plus. On disait jadis, c'est le plus grand miracle de Jésus. Mais non, c'est le miracle du Père qui prend son Fils et qui le prend près de lui, qui lui redonne la vie. C'est le miracle de sa vie à Jésus. Il ne suffit pas de dire « Jésus est ressuscité, alléluia !» et on s'en lave les mains comme Pilate, on n'en fait rien. Non, ça veut dire que la vie de Jésus, qu'il a vécu humblement comme nous, au milieu des hommes, au milieu des petits, des pécheurs, des plus pauvres, cet amour qu'il a voulu vivre avec tous, c'est le chemin de l'Évangile, c'est le chemin de la vie. C'est lui qui a raison. Apparemment, la mort de Jésus, c'est l'échec total de sa mission. Lui qui se prétendait envoyé de Dieu, il a été tué comme un malpropre, comme un blasphémateur. Eh bien, la résurrection atteste que le chemin de l'Évangile, c'est le chemin de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire que nous sommes invités à entrer dans le chemin de l'Évangile, dans le chemin de Jésus. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et nous voyons bien que nous avons beaucoup à faire pour entrer dans le chemin de l'Évangile. Parce que le chemin de l'Évangile, en général, ce n'est pas le chemin que le monde nous propose. Ce n'est pas le chemin que le monde nous propose. Le monde nous propose une réussite extérieure avec l'argent, le pouvoir, toutes ces choses qui brillent et qui nous attirent. Eh bien, le Christ ressuscité nous dit que le chemin de la vraie vie, c'est le chemin de l'Évangile. C'est d'apprendre peu à peu, jour après jour, à aimer ses frères et ses sœurs, à leur pardonner, à les regarder avec espérance, avec tendresse. Voilà le chemin de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est cela qu'atteste la résurrection de Jésus. Alors il nous faut demander la grâce de contempler le Christ ressuscité, mais surtout de pouvoir entrer dans ce chemin de l'Évangile, qui est un chemin d'espérance, qui n'est pas un chemin d'illusion. C'est ce que nous disait saint Paul tout à l'heure. Il nous disait « Regardez les réalités d'en haut et non pas les réalités d'en bas ». Ça ne veut pas dire qu'il nous faut mépriser ce monde et nos responsabilités, pas du tout. Ça veut dire que dans les réalités de ce monde, nous avons à nous laisser informer par l'Esprit de Jésus, à nous laisser peu à peu transformer, à devenir nous-mêmes, à la suite de Jésus, des artisans de paix, des artisans de réconciliation. Arrêtons de hurler avec les loups. Arrêtons, c'est facile de tout critiquer, de tout mépriser. C'est trop facile. Ce qui nous est demandé, c'est avec Jésus d'aimer ce monde et d'essayer, dans nos pauvres petits moyens peut-être, d'y mettre un peu plus d'amour, un peu plus de paix. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à devenir des témoins de cette bonne nouvelle. Alors peut-être que nous nous disons « Oh, la résurrection, c'est bien beau, on chante Alléluia, c'est merveilleux », mais peut-être qu'il y en a qui se disent « C'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai ». Alors ce matin, demandons la force de l'Esprit-Saint et laissons monter notre prière. « Seigneur, je crois ». Mais augmente en moi la foi, que la joie de la résurrection, elle me touche au cœur et qu'elle puisse peu à peu grandir en moi et me transformer pour que je puisse devenir comme Jésus, davantage fils de Dieu, fils de notre Père et frère des hommes. Et le Christ ressuscité nous dira, dans le fond de notre cœur, éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.